C'était hier. Quand on ratait un appel client, on perdait un client. Mais hier, c'était hier.
Aujourd'hui, SFR invente le pack Business Entrepreneur. La nouvelle solution tout en un, télécom et cloud pour les TPE. Plus aucun appel perdu. Tous vos appels fixes et mobiles arrivent sur votre smartphone. Passez au business supérieur avec le pack Business Entrepreneur. Découvrez tous ses avantages au 10.01. Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. SFR.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On célèbre en ce moment le tricentenaire de la naissance de Denis Diderot. Franck Ferrand ne pouvait pas passer à côté d'un tel anniversaire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Il y a beaucoup d'anniversaires en ce moment, hein, beaucoup de bicentenaires notamment. Alors là, c'est un tricentenaire, puisque Diderot, l'un des pères de l'encyclopédie, est né le 5 octobre 1713, il y a eu 300 ans la semaine passée. Je suis d'autant plus heureux d'inviter Marc Menant à venir nous parler du grand philosophe des Lumières que, sans révéler l'essentiel de ce qui n'est encore qu'un projet, je peux vous dire que nous sommes en train de monter ensemble un spectacle autour de ce personnage, justement.
Je le trouve bien mystérieux, Franck.
Vous en direz davantage dès que les choses seront un petit peu plus avancées. En avant-première, ou pour vous donner un avant-goût, je vous propose de découvrir grâce à Marc qui était vraiment ce grand auteur qu'on évoque rarement en dehors du cadre scolaire, ce qui est d'autant plus injuste, finalement, que le personnage, vous allez le voir, n'avait rien, mais alors vraiment rien de scolaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a quelques mois, je farfouillais dans mon dossier consacré à Catherine de Russie pour les besoins d'une autre émission et je suis tombé avec émotion, disons-le, sur la belle histoire de cette amitié ou en tout cas de cette relation extraordinaire, relation d'abord épistolaire, entre celle qu'on surnommait la Sémiramis du Nord et notre Diderot. On peut dire que l'impératrice avait trouvé le moyen d'être aimable avec Diderot, de l'aider sans le gêner, sans le mettre mal à l'aise, et tout en enrichissant, vous allez le voir, le patrimoine de la Russie. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté la bibliothèque de Diderot, mais elle lui en a laissé la jouissance. Évidemment, elle l'a payée par avance. Elle a également offert de publier une encyclopédie qui ne serait pas censurée, de la publier en Russie. Il faut pas oublier que lorsque Diderot achève son encyclopédie, l'œuvre est officiellement interdite par un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État, les arrêts des 8 mars et 21 juillet 1759. Au début, cette entreprise de l'encyclopédie avait complètement ébloui les esprits des Lumières et on avait rencontré un certain nombre de riches mécènes qui s'étaient passionnés pour la question. On pense évidemment au docteur Quesnay, mais il n'est pas le seul. On pense évidemment aussi à Madame de Pompadour, qui aura été de toutes ses forces la protectrice des esprits philosophiques en général et des auteurs de l'encyclopédie en particulier. Sauf que Madame de Pompadour, au bout d'un moment, face à la mauvaise volonté générale et face à l'agressivité qui se levait de partout contre cette vaste entreprise encyclopédique, Madame de Pompadour elle-même avait dû baisser les bras. Il n'empêche, l'encyclopédie continuera d'être imprimée à Paris. Une polémique très importante a été lancée à propos de cette interdiction, de cette suppression. Et évidemment, ça a fait le tour de l'Europe et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de cette toute nouvelle impératrice de Russie qui s'est dit « mais c'est peut-être pour moi l'occasion de me distinguer de tous les souverains d'Europe. C'est peut-être le moment de faire comprendre qu'il y a en Russie un nouveau pouvoir. » Car en 1762, le pouvoir russe est passé aux mains d'un nouveau tsar, ou plutôt, vous l'aurez compris, d'une nouvelle tsarine. Catherine a entrepris une campagne sérieuse pour persuader tous ceux qu'elle pouvait, tous les esprits éclairés de l'Europe de l'époque. On est dans la grande époque des Lumières, de ce que les Allemands vont appeler l'Aufklärung. Elle essaie de convaincre notamment les écrivains français qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle n'est pas un tyran, qu'elle est en quelque sorte, et si l'on peut dire, en n'ayant pas peur des oxymores, qu'elle est en quelque sorte une souveraine républicaine. Et sa principale ambition, c'est qu'un certain nombre de grands esprits français, qu'elle estime maltraités en France, puissent venir s'installer chez elle, résider à sa cour. Le 6 juillet 1762, On est vraiment très peu de temps après son coup d'État, hein, qui a eu lieu une semaine plus tôt. Elle invite notamment Diderot à venir s'installer en Russie et donc pour y publier une nouvelle encyclopédie qui serait l'encyclopédie russe, une encyclopédie sans aucune limite et sans aucun tabou. Ça paraît pour cette époque tout à fait extraordinaire, bien entendu. Ça n'existe nulle part. On est dans une situation, évidemment, où les différents souverains d'Europe vérifient de très près ce qui est publié sous leur nom. Catherine II n'est pas seulement, je vous ai dit, républicaine, c'est un esprit libre, c'est une bibliophile, c'est une amoureuse des arts et des lettres, c'est le véritable et pur produit des Lumières. Diderot sera finalement le seul philosophe français à accepter de faire le voyage jusqu'en Russie, mais pas tout de suite. Demandez-lui quand même le temps de se retourner un peu, il va temporiser dans un premier temps, il va attendre, ce qui le rend peut-être plus sensible aux sirènes russes que d'autres, en dehors du sort fait à son encyclopédie, c'est la situation financière dans laquelle il se débat. Disons-le, Diderot a besoin d'argent. Il en a besoin notamment pour marier sa fille, Marie-Angélique, qui à l'époque est encore une petite fille, on va dire. C'est la future madame de Vandeul, sa seule fille légitime qui va atteindre l'âge adulte, issue du mariage avec Antoinette Champion. On en parlera tout à l'heure avec Marc Menant. Les honoraires qu'il recevait des éditeurs de l'encyclopédie sont maigres. Ils deviennent, vous l'avez compris, par la force des choses, ils deviennent de plus en plus maigres. Alors il faut trouver une solution pour Diderot. Il se dit que sa seule richesse, finalement, c'est l'extraordinaire bibliothèque qu'il a réussi à accumuler, à créer depuis maintenant de nombreuses années. Une bibliothèque qui non seulement est devenue assez encombrante, mais fait rêver Paris par sa très grande diversité et par la très grande pertinence des ouvrages qui ont été choisis pour la composer. Donc, pour Diderot, il sait qu'il y a là une véritable richesse. Alors, dans un premier temps, il traite avec un maître des requêtes, M. Farget de Polizy, puis avec son propre notaire, le Pot d'Auteuil, mais ce sont des négociations qui sont longues, qui sont complexes et qui finalement n'aboutissent à rien. C'est alors que la tsarine propose à Diderot de lui racheter sa bibliothèque. Comment refuser une offre de l'impératrice de Russie? La transaction se fait par le biais de Frédéric Melchior Grimm, vous savez, le célèbre homme de lettres et diplomate bavarois qui est très proche à la fois de la tsarine et des milieux parisiens. Il a longuement résidé à Paris. Diderot a rencontré Grimm en 1749 et évidemment, il accepte d'autant plus volontiers l'offre que Grimm lui fait de la part de l'impératrice que c'est une offre à titre viager, c'est-à-dire que Catherine va acheter la bibliothèque de Diderot, mais elle lui en laisse le plein usage, l'entier usufruit. Ça, c'est ce qui s'appelle se montrer grand seigneur. En mars 1765, Catherine II offre donc 15 000 francs et une rente annuelle de 1 000 francs, c'est-à-dire 4 000 livres de l'époque. C'est beaucoup d'argent pour la bibliothèque du grand homme. Et elle permet au philosophe d'en garder donc l'usage plein et entier jusqu'à sa mort. « Il aurait été cruel de séparer un savant d'avec ses livres, dit-elle. J'ai été souvent dans le cas d'appréhender qu'on ne m'ôtât pas les miens. » C'est une façon de se justifier, c'est surtout une façon de se montrer encore plus humaine, encore plus généreuse qu'elle n'est en vérité.
On écoutait Vivaldi sur Europe 1, un extrait du concerto pour deux trompettes. Nous voulions vous remercier pour votre fidélité sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes sur le point, grâce à vous, d'atteindre les 10 000 fans.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a 300 ans, naissait Denis Diderot. Aujourd'hui, vous nous contez son histoire et celle de Catherine II, Franck.
La transaction entre la tsarine et Diderot datait donc du printemps 1765. Or, en 1766, Catherine se rend compte que Diderot n'a pas reçu sa rente. Alors, elle lui verse d'un coup 66 000 francs, c'est-à-dire en vérité 6 fois le prix qui avait été convenu. Et la somme est accompagnée de la lettre suivante. « Sa Majesté impériale, ayant été informée par une lettre que j'ai reçue du prince Galitzine que M. Diderot n'a pas été payé de sa pension depuis le mois de mars dernier, m'a ordonné de lui dire qu'elle ne voulait pas que les négligences d'un commis puissent causer quelques dérangements à sa bibliothèque, que pour cette raison, elle voulait qu'il fût remis à M. Diderot pour 50 années d'avance ce qu'elle destinait à l'entretien et à l'augmentation de ses livres, et qu'après ce terme échu, elle prendrait des mesures ultérieures. À cet effet, je vous envoie la lettre de change ci-jointe. » Vous imaginez la tête de Diderot, on se dit dis qu'un tel homme désormais ne va pas pouvoir vraiment résister longtemps aux demandes de celle qui devient sa bienfaitrice. Le geste de la tsarine est salué par des louanges unanimes, non seulement de Diderot bien entendu, mais de tous les philosophes qui la louent d'avoir de cette manière tiré leur père ou leur frère de la misère. Elle devient, selon les termes de François Bluche, la providence des écrivains, le bon génie tutélaire de la République des lettres. Eh bien, c'est dans ce climat tout à fait enthousiaste, dans cette relation d'estime mutuelle et même d'admiration, qu'est envisagé le voyage de Diderot en Russie. Disons-le clairement, Diderot, a priori, n'aime pas tellement les voyages. Hein. Dans une lettre du 12 octobre 1760 à son amie Sophie Volant, il dit qu'il n'approuve pas qu'on sorte de son pays entre 18 et 22 ans, autrement dit l'âge de la formation, quand c'est l'âge d'aller faire ce qu'on appelait le grand tour. Lui-même, d'ailleurs, avait voulu visiter l'Italie, mais finalement, il ne s'est jamais décidé vraiment à partir. Ses voyages sont limités à des séjours à Langres, qui est sa ville natale. Alors, vous pensez, pour ce qui est de la Russie. Et oui, sauf que les années passent, que les demandes de l'impératrice se font de plus en plus pressantes, qu'elle-même est devenue, nous l'avons bien compris, sa principale bienfaitrice, et qu'il n'a plus tellement le choix. Ça fait 11 ans qu'elle l'invite lorsqu'il finit, en 1773, par céder. Pourquoi 1773 ? Ben, c'est le bon moment. La fille de Diderot vient de se marier, les derniers volumes des planches de l'encyclopédie ont été envoyés aux abonnés, et puis lui, pendant ce temps, a envoyé vers la Russie un grand nombre de tableaux, car Catherine a fait de lui un peu son représentant sur place, en France, pour les arts, et donc il veut voir un peu l'effet produit, il veut les voir ces tableaux. Il voudrait voir aussi la progression du travail de Monsieur Falconet, qui est en train de sculpter la statue de Pierre le Grand. Et puis, son ami Grimm doit se rendre justement en Russie en cet été 1773 à titre de courtier du mariage royal entre la princesse Wilhelmine de Hesse-Darmstadt et le grand-duc Paul, le fils et l'héritier de Catherine. Oh, disons que c'est le bon moment. Alors Diderot ne va pas s'embarquer comme ça, vous pouvez lui faire confiance. Il va se renseigner, bien entendu, il va se documenter sur la Russie. Il lit notamment l'histoire de Russie de Voltaire. Voltaire qui, entre parenthèses, lui aussi était très demandé sur place, mais qui n'a jamais fait le voyage jusqu'au palais de Catherine II. Le voyage commence le 11 juin 1773. C'est un long et pénible voyage, disons-le. Alors à l'époque, évidemment, on ne se rend pas d'une traite comme ça jusqu'en Russie. Sa première véritable halte, Diderot va la faire à La Haye, donc aux Provinces Unies, où il est accueilli par le prince et la princesse Galitzine, représentant de Catherine, dans un palais qui se trouve être tout proche de la bibliothèque royale. Ça tombe bien. Diderot va en profiter pendant trois mois. Il mène là-bas la vie tranquille de l'homme cultivé qu'il est. Et puis, eh bien, il faut repartir. Alors, il quitte La Haye le 17 août 1773. Il repassera d'ailleurs par La Haye au retour. Et là, cette fois, eh bien, la direction, c'est le but ultime, hein, c'est Saint-Pétersbourg. Voyage terrible, laborieux, avec des étapes plus ou moins confortables. Il faut savoir que Diderot va tomber malade à deux reprises pendant ce voyage. Il n'atteint finalement Saint-Pétersbourg que le 10 octobre. Il est complètement épuisé. C'est quand même un homme de 60 ans qui fait ce voyage, hein, puisqu'il est né en 1713 et qu'on est là à l'automne 1773. Quand il arrive dans Saint-Pétersbourg, évidemment, il ne faut pas imaginer la ville que nous connaissons aujourd'hui, qui est la ville entièrement remaniée à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est une cité qui est encore en pleine expansion. Elle n'a été créée par Pierre le Grand que 70 ans plus tôt. Alors néanmoins, les palais sont rutilants, les cathédrales sortent de terre. Les hôtels particuliers sont peut-être les plus beaux d'Europe, dus d'ailleurs aux meilleurs architectes du 18e siècle, à Rastrelli bien entendu, mais à certains autres, hein, à notre Valin de la Motte, notamment, ou à Chedel, etc. L'Empire, à cette époque, est en pleine guerre contre la Sublime Porte, contre les Ottomans. Sur le plan intérieur, la tsarine doit faire face à la révolte de Pougatchev, qui est en train de soulever les vieux croyants contre elle, et les Cosaques et les ouvriers des mines de l'Oural. On ne peut pas dire que Diderot arrive dans un climat parfaitement serein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il espérait pouvoir loger chez le sculpteur Falconet, donc, un vieil ami. Sauf que, évidemment, Diderot ne va pas pouvoir s'en tirer à si bon compte. Il est logé chez Alexei Vassilievitch Narishkin, qui est l'un des principaux membres de la cour de Russie, un des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires de Catherine, un personnage extrêmement important, et qui lui offre l'hospitalité après l'avoir rencontré sur l'ultime bateau qui l'amenait jusqu'à Saint-Pétersbourg. D'une façon générale, pendant tout son séjour, Diderot va faire tout ce qu'il peut pour essayer d'échapper le plus possible aux obligations protocolaires. Et notamment, il n'assistera pas au mariage du grand-duc Paul, celui qui va devenir le tsarévitch, hein, celui qui va devenir le futur tsar Paul Ier. Il a trouvé une bonne excuse pour ne pas assister officiellement aux cérémonies. Il n'avait pas de perruque.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire de Denis Diderot, qui est né il y a 300 ans. Et vous continuez, Franck, à nous conter sa vie assez incroyable.
Alors ça y est, notre Diderot est en Russie, il est à pied d'œuvre si je puis dire, et il va rencontrer l'impératrice. Alors on ne sait pas exactement à quelle date il a rencontré la tsarine pour la première fois, mais ce que je peux vous dire, c'est que les entretiens entre ces deux personnages historiques vont être nombreux. Au total, il y aura 66 entretiens entre la souveraine et le philosophe, entre la mi-octobre 1773, son arrivée, et la fin de février 1774, lorsqu'il repartira. On peut dire que Diderot, du reste, ne sort guère de son hôtel particulier que pour se rendre au Palais d'Hiver et pour ses entretiens avec Catherine. Alors, des entretiens tout à fait extraordinaires. Hein. Il parle à la tsarine de toutes les Russies comme si elle était une de ses habituelles interlocutrices des salons parisiens. Diderot est là, finalement, pour répondre aux questions que lui pose Catherine. Alors, chaque entretien a un thème et, évidemment, ils discutent. On aurait adoré être une petite souris, être dans un coin de ces grands salons. Il faut imaginer ce que peuvent être les salons du Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg avec ses poils immenses, l'impératrice dans ses fourrures, Diderot qui est là à côté, qui s'enflamme, qui défend ses points de vue. Et malheureusement, on ne sait pas très exactement ce qu'ils se sont dit. Dans ses mémoires, Madame de Vandel, donc la fille unique de Diderot, avoue qu'elle n'a eu des entretiens que des bribes. Et elle suppose que lui n'a rien écrit à ce sujet, ni pendant qu'il était en voyage là-bas, ni à son retour. Diderot a voulu résumer le souvenir des entretiens dans toute une série de chapitres, seulement il n'a pas gardé copie de ces fameux feuillets. L'impératrice, de son côté, n'a jamais parlé à quiconque d'un éventuel cahier qui pouvait se trouver dans sa bibliothèque. Or, le manuscrit des entretiens de Diderot avec l'impératrice, qui donc est totalement inconnu, qui a disparu pendant 75 ans, il va réapparaître de façon miraculeuse chez des collectionneurs russes avant de réintégrer la bibliothèque des tsars à la toute fin du 19e siècle et il disparaît de nouveau pendant la révolution de 1917. Alors, sur le premier feuillet, on pouvait lire ce titre « Mélange philosophique historique année 1773 depuis le 5 octobre jusqu'au 3 décembre même année ». Donc c'est bien le compte-rendu d'une partie en tout cas des entretiens qu'a pu avoir Diderot avec l'impératrice. Et le compte-rendu de ces entretiens, il ne sera publié pour la première fois qu'en 1899, donc à la belle époque, par Maurice Tourneux. Cette première publication du manuscrit de 400 pages est truffée d'erreurs, si l'on en croit Paul Vernière, qui en donnera une version corrigée en 1966. Et aujourd'hui, les éditions Hermant présentent une version complète des mélanges philosophiques pour Catherine II. C'est finalement le titre qu'ils ont conservé. Évidemment, on a de cette manière, une certaine idée, une idée assez précise du type d'entretien qu'ont pu avoir le philosophe et la souveraine. On sait à peu près de quoi ils se parlaient. Mais ce qu'on n'a pas, ce sont les étonnements, ce sont les interjections de l'impératrice. Et c'est en face le feu extraordinaire d'un Diderot qui se bat pour faire valoir ses points de vue. Ça, malheureusement, c'est définitivement perdu. Et ça n'est resté probablement que dans la mémoire de Catherine elle-même. Il faut dire quand même que Diderot va subir, à cause de ce voyage, un certain nombre de calomnies, disons-le, une campagne orchestrée d'ailleurs par Frédéric II de Prusse, qui est jaloux tout simplement, mais aussi par l'abbé Galiani de Naples, qui se trouve être le grand correspondant de Frédéric à cette époque. C'est un des pères de l'économie moderne, Galiani. Et on peut dire aussi que cette mauvaise presse a été en partie alimentée par Catherine elle-même, qui se plaisait à entretenir, à défendre cette image d'un Diderot un peu gesticulant, un peu personnage de foire. C'est dommage, car il est très probable qu'en vérité, derrière tout ce folklore, se soit caché beaucoup de sagesse et tout un enseignement dont on peut dire qu'aujourd'hui, il nous est en partie perdu. Sur quoi ont porté les entretiens entre Catherine et Diderot et quelle a été la conclusion de toute cette affaire, notamment sur le règne même de Catherine la Grande? Eh bien voilà des questions que je vais poser dans un instant à Marc Menant. Bonjour Marc.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup de votre fidélité. Alors, avant de venir à cette vie de Diderot, dont on célèbre, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient seulement, le tricentenaire, là, ces jours-ci, hein, il est né le 5 octobre 1713, précisément, à Langres, je le disais tout à l'heure, l'endroit le plus froid de France, si je ne
me trompe. Oui, ça descend bien, ça descend bien.
Ce voyage a été une des étapes importantes, peut-être pas de sa vie, mais on va dire de sa fin de vie. D'ailleurs, il en revient malade. Et il ne s'en remettra jamais vraiment.
Mais est-ce que ce n'est pas non plus une période où il avait été, disons, plongé dans une dépression qui a suivi les 20 années consacrées à l'encyclopédie?
C'est
un travail quotidien qui, de temps en temps, l'épuise. Et puis, il y a tous les contradicteurs. Il sent la menace. À tout instant, il se retrouve, je dirais, sous le joug de ceux qui veulent lui nuire, ceux qui sont les tenants de l'académisme et surtout qui sont contre la connaissance, qui remettent en cause le Tout-Puissant. Or, lui, c'est quand même l'athéisme qui apparaît. C'est celui qui est en train de faire naître, je dirais, les soupçons sur l'existence du Tout-Puissant.
Nous venons dans un instant à tout cela et nous allons tout simplement, ensemble, revivre la vie de Diderot.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de Denis Diderot qui naissait il y a 300 ans avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Marc Menon, journaliste et écrivain, auteur notamment du roman « Mes divines débauches » aux éditions du Rocher.
Alors, ce qu'il faut peut-être commencer par dire, Marc Menon, c'est que, vous savez, il y a cette phrase, on dit souvent « rien ne prédisposait un tel à devenir ceci ». Eh bien, en l'occurrence, rien ne prédisposait Diderot à devenir un philosophe. Et en l'occurrence, son propre frère, quand même, était curé, je me permets de le rappeler.
Et puis, il y avait l'oncle aussi.
Et puis l'oncle, oui.
L'oncle qui était chanoine, et quand Diderot est gamin, pour les parents, c'est l'opportunité d'envisager une existence bénie sous le sceau des prébendes, c'est-à-dire que s'il pouvait prendre la succession du chanoine, c'est une existence tranquille qui lui serait assurée.
Et
donc,
voilà,
on va faire en sorte que le gamin prenne tonsure.
Le père est artisan, en fait.
Coutelier. Voilà. Et alors, il est très attentif à son fils à une époque où il n'y a pas d'éducation chez les plus démunis. Et je dirais que les parents de Diderot sont à peine des petits bourgeois. Ils ont une aisance, mais enfin, ce sont quand même des personnes qui sont condamnées à cette quotidienneté besogneuse où l'on donne le meilleur de soi. Et le père, il est là, il affûte les couteaux, même si c'est en œuvre d'art, en artisan, mais en y mettant la pointe créatrice. Le gamin, d'ailleurs, sera extrêmement fasciné par le père, et lui qui est indiscipliné, qui ne supporte pas les dictats des uns et des autres, et surtout quand il va arriver au collège. Donc au début, c'est le père qui semble lui avoir donné l'initiation nécessaire pour pouvoir après gagner le collège des Jésuites lorsqu'il a 10 ans. Mais là, il va s'avérer l'un des aventuriers de la pensée formidable. Il a des notes étonnantes, mais il est constamment foutu dehors. Ce garnement qui adore donner du poing avant de donner des mots, qui est capable de prendre la place d'un autre pour répondre à une question aussi incongrue. Quel est le discours tenu par le serpent face à Ève? Et lui qui se laissait aller à une plume d'une agilité invraisemblable, il obtient là la consécration avec des notes des professeurs en disant « ce garçon représente toute l'intelligence et pour autant son indiscipline les oblige à le mettre dehors ».
Ah oui, c'est ça. Il a été tonsuré hein, quand même. Il avait 13 ans à peu près.
12 ans. Mais alors ça ne veut pas dire grand-chose, la tonsure. Ouais. C'est la promesse d'entrer dans les ordres. Néanmoins, ça lui vaut le titre d'abbé. Ça lui vaut une tenue aussi, noire, avec le petit côté col blanc, etc. Mais il n'y croit guère. Pour autant, néanmoins, il y a chez lui, à un moment, un désir d'aller plus loin dans la rencontre avec l'indicible. Je pense que c'est là où il y a la force du libre arbitre. Ce garçon, avant de renier le Seigneur, de le mettre au banc de sa pensée, il essaie de s'interroger sur ce qu'il peut représenter véritablement. Tant et si bien qu'il va suivre une formation complète de cours de théologie à la Sorbonne. Il y a même un instant, il envisage d'entrer dans les ordres. Mais il est quand même plus, lui, l'homme du désordre. Oui. Ceux qui le taquinent, ce sont les femmes. Il dira bien des années plus tard à un pasteur, de Louis XIV, disait « j'ai trop aimé la guerre ». Lui, il dira « j'ai trop aimé les femmes ».
Louis XIV a dit ça aussi, hein, je vous rassure. Les femmes et les bâtiments. Alors, en fait, cette volonté de changer le monde, on la retrouve très tôt chez lui. Hein. D'abord, il s'enfuit, si je puis dire, très vite. Hein. Il est comme aimanté par Paris.
Alors, disons qu'il y a une nécessité. C'est pas à Langres que l'on va pouvoir suivre de grandes études qui vous mettent dans cette émancipation de la pensée. Et là, je dirais que le père Coutelier a bien compris qu'il fallait aiguiser les sens de ce garçon. Bah oui, bien évidemment. Et que par conséquent, il fallait le conduire à Paris. C'est ce qu'il fait. Là, il va être logé rue Mouffetard. Mais ce qui avait été envisagé aussi, à savoir la tonsure pour entrer dans les ordres, c'était le chanoine qui devait l'accompagner. Mais il va avoir une mort un peu trop précoce. Il n'a pas le temps de remplir son testament tant et si bien qu'à un moment donné, le gamin va se retrouver orphelin de cet espoir d'une existence confortable grâce aux prébendes ecclésiastiques et il va se consacrer à l'étude pure. Il dialogue avec Platon, il relit 20 fois, 30 fois Homère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et même à l'époque, on peut imaginer qu'un adolescent a plus le désir de s'intéresser à ses jeux avec les copains. Alors lui, faut pas oublier, c'est un bagarreur. Il a la fierté de donner des nions aux autres. Il aime se présenter devant son père, même lorsqu'il est encore à Langres, avec les vêtements déchirés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fasciné par les regards des filles. Mais un regard de dissidence, un regard qui montre qu'il n'est pas comme tout le monde. Il se décrit à l'époque en disant « j'avais toujours les cheveux ébouriffés, la chemise ouverte, ça changeait des autres qui avaient un fier chapeau et moi les filles elles m'aimaient parce que j'étais presque en quelque sorte un sale garnement ». Et ça, ça va le tenir, je dirais, dans une personnalité qui échappe à toutes les structures du bien penser et du bien se conformer.
Il n'était pas fâché avec lui-même si l'on en croit la description qu'il donne de lui, hein, le front ample, l'œil vif, les traits assez grands, toute la tête d'une régularité digne de l'antique, rien que ça, la physionomie pleine d'éloquence, d'animation et de bonhomie, tour à tour sereine, triste, rêveuse, tendre, violente, passionnée, enthousiaste.
Ben, c'est ça, d'ailleurs, alors je ne sais pas si, puisque vous le soulignez tout à l'heure, on a peu d'informations sur ce qui se passait avec Catherine de Russie. Il n'en reste pas moins qu'elle consigne que le bougre était là, s'agitait tellement qu'il lui donnait quelques
coups. Il lui faisait des bleus, oui.
Mais elle rapporte aussi à un moment donné qu'il arrache sa perruque. Il est dans une telle exubérance, c'est le verbe qui le porte, c'est le verbe qui le gouverne. Et cette éloquence fascine tout le monde. Elle fascine Rousseau. Quand ces deux individus se rencontre, Rousseau, de par sa jeunesse, qui est là plutôt timoré, se retrouve avec cet homme qui le galvanise. Cet homme, il le dit, qui le fascine tant et si bien que quand ils arriveront à la rupture, jamais Jean-Jacques n'acceptera ce qu'il a considéré comme une trahison.
Oui.
Parce que tout simplement, quelle trahison ? Eh bien, il avait eu une maîtresse, il en avait rapporté le compte-rendu de l'aventure à Diderot, et celui-ci, croyant que Rousseau allait lui-même avouer la faute au mari de la maîtresse en question, avait, devant cet homme-là, dit « Ben voilà, alors, il se trouve que notre ami Rousseau, avec votre épouse, et bien évidemment, pour Rousseau, c'est la trahison des trahisons, c'est l'inacceptable. » Et ça, bien que Diderot ait fait plusieurs fois la démarche de tenter de renouer avec Rousseau, celui-ci
les
dira...
Les caractères sont bien différents.
Oui, oui, bien sûr, mais celui-ci dira toujours combien... Il est orphelin de cette amitié avec Diderot, mais jamais il n'acceptera de lui retendre la main.
Ouais, oui, là c'est fini, il y a une cassure,
c'est
évidemment.
C'est fini. Alors il faut dire aussi qu'il était peut-être un peu jaloux de l'amitié qui s'était nouée avec Grimm. Grimm qui était là encore un personnage...
Alors Grimm, rien à voir, attention, avec les auteurs des contes. Hein.
Non.
Là c'est le baron Grimm dont je parle, hein, cet intellectuel. J'ai cité le nom de Jaucourt tout à l'heure, donc Diderot, Rousseau, Voltaire...
Jaucourt qui est l'un des plus prolixes dans l'encyclopédie, ça faut le signaler.
Ce qui est fascinant, c'est l'incroyable foisonnement de penseurs de cette époque. Alors, qui de la poule ou de l'œuf, ça c'est une autre question, mais en tout cas, c'est inouï d'imaginer que dans la même ville, et même on peut dire dans le même café, le café Procope pour ne pas le nommer, vivent à la même époque tous ces grands philosophes, tous ces grands esprits qui ont envie de bousculer
C'est un bouillonnement, mais avec aussi des perceptions différentes. Voltaire restera déiste. Pour lui...
Déiste, il faut expliquer en deux mots.
Oui, bah, c'est le grand horloger, hein, c'est-à-dire que comme Einstein...
Il y a une divinité, mais ce n'est pas le dieu
voilà,
habituel.
C'est le dieu organisateur, c'est celui qui fait en sorte que le monde ait une cohérence. Alors que l'athée, lui, part du principe que sont les calculs des probabilités qui peuvent simplement montrer que le monde existe, parce que si vous lancez 10 millions de fois des dés, ils vont finir par sortir la bonne combinaison. Disons qu'à force de lancer et de faire des tirs tirage, le loto s'impose de lui-même.
Ils n'ont bien sûr pas les mêmes points de vue, ils n'ont pas la même conception du monde et de la divinité, ça vous venez de bien de le dire, mais ils sont tous animés par un même feu qui est un feu de pensée et qui est une aspiration vers une forme de liberté. Tout ça va s'incarner dans un très grand projet, dans ce qui restera évidemment comme la grande aventure du siècle et que nous allons revivre ensemble, Marc, si vous le voulez bien, c'est l'aventure de l'encyclopédie.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de son concerto pour mandoline. Il y a 300 ans, naissait Denis Diderot. Vous nous en parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, avec votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain, auteur notamment du roman « Mes divines débauches » aux éditions du Rocher.
Le projet d'écrire une encyclopédie, c'est-à-dire de coucher sur le papier la somme des connaissances disponibles dans une époque, avec non seulement les connaissances techniques, mais aussi tout ce qui concerne la société, et là ça devient évidemment plus politique et plus dangereux, était un projet fascinant. Un mot peut-être avant de venir à cette encyclopédie, un mot des femmes qui gravitent comme des satellites autour de l'astre Diderot, Marc Menant.
Donc il y a d'abord toutes les petites coquines qu'il peut rencontrer en étant étudiant. Et puis il loge dans une maison où il y a Madame Champion qui fait de la lingerie avec sa fille, la petite Nanette. Alors bon, en étant bon voisin, ce
Toinette,
garçon
hein,
paraît,
c'est son vrai nom,
voilà,
hein.
Voilà, qui paraît tout à fait fréquentable. Donc on l'invite. Et puis de souper en souper, il y a une intimité qui se crée avec cette jeune fille. Je dirais apparemment des plus en appétence lorsqu'il s'agit de la beauté, si l'on en croit Diderot, mais en revanche, sur le plan intellectuel, elle est plutôt limitée. Néanmoins, il est fasciné par ce qu'elle représente. Il semblerait aussi qu'elle lui cède quelques étreintes qui vont les lier, laisser la petite en suspens très longtemps, car il lui promet le mariage, mais il se voit mal annoncer à son père, là-bas à Langres, le coutelier, qu'il va cheminer avec une lingette. Ça ne paraît pas très très digne. Donc, il
c'est
fait
pas une alliance très brillante.
C'est pas très brillant, donc il va faire patienter jusqu'à ses 25 ans, l'âge de la majorité. Mais il va tenir les épousailles secrètes. Ce n'est que bien des mois plus tard qu'il osera dire à ses parents que maintenant, ils ont une belle fille. Et Nanette, eh bien, sera la complice, celle qui va l'accompagner, mais je dirais plus l'amie, même si sur la fin de son existence, il sera d'une extrême tendresse avec elle. Et c'est peut-être là les véritables forces d'un amour platonique. Mais ils vont aussi déstabilisés par les drames qui vont en quelque sorte être la lèpre de leurs sentiments. Très vite, elle va se retrouver enceinte et à chaque fois qu'il y a un enfant qui est annoncé, ça se termine toujours très mal. Le troisième va vivre, mais malheureusement, la nounou qui l'a dans les bras, sur le parvis de l'église, le laisse choir et le gamin meurt. Donc vous imaginez ce qu'elle doit endurer, la pauvre Nanette. Et pour autant, elle ne bénéficie pas du soutien de Diderot. Il y a bien évidemment, c'est encyclopédie qui l'accapare du matin au soir, mais le soir, il faut se divertir aussi. Alors, il sort avec Rousseau, il sort avec Grimm, il sort avec tous ceux que vous avez cités tout à l'heure. On va aux parties d'échecs, on va rencontrer quelques théâtreuses, parce qu'on est fasciné aussi par cet art du vivant. Et par conséquent...
Cet art du vivant qui, en même temps, est le grand art politique de l'époque. Hein. C'est l'équivalent des journaux d'opinion d'aujourd'hui, le théâtre. Hein.
Voilà. Et donc, elle est délaissée. Elle leur devient un cariâtre, insupportable. Elle lui fait des scènes, ce qui fait qu'il prend d'autant plus ses distances avec elle. Et puis, apparemment, il n'y a pas cette complicité de l'esprit. Tant et si bien que l'une de ses premières maîtresses, celle qui va marquer son existence, sera Madame de Puisieux. Et cette Madame de Puisieux, alors lui, il la dépeint comme étant une sorte de déesse. Si l'on se fie aux témoignages plutôt périphériques, on s'aperçoit qu'apparemment, cette dame, elle a rien d'une conquérante des cœurs de par son physique. En revanche, c'est vrai, il semblerait que son esprit soit un esprit plutôt pétillant. Mais qu'est-ce qu'il lui donne? C'est invraisemblable. Tout ce qu'il lui consacre, elle a besoin d'argent parce qu'elle est plutôt roturière. Elle n'a pas fait un très bon mariage. Donc, c'est un véritable vampire de finances. Lui qui n'en a déjà pas beaucoup. Et Madame de Puisieux néanmoins va être un élément moteur parce qu'elle va le sortir de l'encyclopédie. Comme il lui faut des sous, c'est pour elle qu'il va écrire les pensées philosophiques.
Et voilà. Et donc ça, elle va lui donner en quelque sorte son autonomie de penseur.
Tout
ça,
à fait.
C'est tout à fait extraordinaire. Venons peut-être à cette encyclopédie, cette incroyable entreprise. Qui en a eu l'idée initialement?
Initialement, c'est un Anglais, c'est Chambers, qui tout seul dans son coin fait deux volumes. En disant la connaissance humaine aujourd'hui mérite d'être consignée, colligée dans un grand ouvrage. Alors bon, il n'a pas...
La démarche est héritée de l'Antiquité du reste.
Oui, hein, oui, bien sûr. Mais lui, il a repris ça à son compte. Il a réussi à se faire publier. L'ouvrage arrive en France dans les mains du dénommé Le Breton, qui est libraire, éditeur, et qui va penser qu'il serait bon, effectivement, de tenter une aventure, mais qui soit... mieux serré, qui soit mieux étayé que cette encyclopédie bricolée par un homme seul. Les concours de circonstances vont le conduire à Diderot, grand traducteur, cet homme qui butine toutes les opérations primitives afin de trouver la pitance nécessaire à son foyer. Et donc, bon, bah, on finit par demander à Diderot et à d'Alembert d'être les patrons de cette encyclopédie. Il va s'y
On appellerait ça aujourd'hui un peu les rédacteurs en chef.
Oui, c'est ça, les grands boss. Mais attention, il y a le rédacteur en chef d'aujourd'hui qui dit « Allez les petits gars, vous me faites ci, vous me faites ça ». Il ne faut pas oublier que Diderot va faire pratiquement plus d'un tiers des articles de l'encyclopédie. Vous imaginez ? Mais alors ce qui est formidable aussi chez cet homme, il a l'appétit des mots. Mais il est d'un enthousiasme pour toutes ces sciences qui sont en train d'émerveiller. Il se gave de mathématiques. Il voudrait résoudre la quadrature du cercle. Ça l'occupe. Il écrit des traités de mathématiques.
Il y a un petit côté esprit universel.
Ah, complètement. C'est invraisemblable. Alors bon, bah, à chaque fois qu'il demande des articles à des spécialistes, il est capable d'apporter les petites retouches. Dans son désir, bien évidemment, d'illuminer cette encyclopédie, il finira par se tourner vers le patriarche, lui demander de rédiger quelques articles.
Le patriarche, c'est-à-dire monsieur de
monsieur
Voltaire.
Monsieur de Voltaire évidemment. Mais quand on est Voltaire, on ne s'abaisse pas à l'anonymat d'une œuvre aussi gigantesque. Donc il rechigne, il trouve toutes les excuses possibles pour reculer devant la tâche. Néanmoins, il concédera une cinquantaine d'articles et on peut dire que...
Et pas des moindres, non. C'est-à-dire des articles qui parfois sont tout à fait stratégiques sur le plan des idées.
Hein, voilà, c'est la force de Voltaire, bien évidemment, en tant que philosophe, de pouvoir disserter sur ce qui gouverne les interrogations du temps, d'un esprit en émancipation. Et par conséquent, là, pour Diderot, c'est véritablement une sorte de consécration que le grand patriarche accepte de lui consacrer quelques lignes de sa plume.
Qui lui aussi était du reste un des grands correspondants de la tsarine Catherine. Mais je crois qu'on peut dire que Catherine II a été amoureuse vraiment de Voltaire, alors qu'elle n'a pas été de Diderot, semble-t-il. Mais elle était amoureuse à distance et Voltaire s'est bien gardé de se montrer. Il estimait déjà qu'il était trop vieux, trop malade, tout ce qu'on peut imaginer pour effectuer un tel voyage.
Alors là aussi, ce qui est paradoxal, c'est que Voltaire, cet homme qui représente pour nous l'esprit de liberté, l'homme de tous les courages, celui qui vient bousculer les puissants, qui est capable de les interpeller.
On pense à l'affaire Calas,
et voilà, etc., etc. Cet homme-là est un homme de courbette.
Oui, bien sûr.
C'est un invraisemblable. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver dans le giron de Frédéric II, qu'il aurait peut-être pu céder Catherine II et concéder un voyage là-bas. Mais ce qui est fou, c'est qu'il en appelle Diderot à faire de même. Il veut lui dire, il lui écrit, « Mes chers amis, mettez-vous sous la protection de Frédéric II, ensuite allez vers Catherine de Russie. » Et là, c'est formidable parce que Diderot, qui à un moment donné, lui aussi peut être considéré comme un pusillanime, c'est-à-dire quand il va se retrouver à Vincennes, on va peut-être en prison, on a le temps de faire deux petites
secondes. Il faut en dire juste un mot, oui.
Simplement, bon, bah voilà, il écrit toujours pour Madame de Puisieux les bijoux indiscrets, c'est un conte grivois, érotique, etc. C'est le scandale des scandales. On a fini par apprendre que c'est lui qui en est l'auteur, et par conséquent, un beau matin, on vient sonner à sa porte, et il est conduit à Vincennes. Et là, à Vincennes...
C'est une sorte d'annexe de la Bastille.
Voilà. Et Vincennes, pour lui, c'est véritablement... C'est pas l'exil. C'est l'enfermement avec tout ce que ça a d'odieux. Il tombe tout de suite dans la déprime. En plus, il est privé d'argent, les libraires ne le suivent pas. Et Voltaire s'offusque en disant « Qui est suffisamment barbare pour condamner Diderot ?» Et c'est là qu'il demande à Diderot de s'en remettre à Catherine II ou à Frédéric II.
Alors, on n'a pas le temps de parler de beaucoup de choses, mais cela dit, ça ouvre des perspectives pour d'autres émissions. Mais il faudrait expliquer tous les adversaires, évidemment, de l'encyclopédie, hein, ce qui n'a pas été une aventure facile. Il faudrait parler, je le disais, des œuvres romanesques de Diderot qui paraîtront pour l'essentiel après sa mort, d'ailleurs.
Oui, hein, bah, la religieuse,
la religieuse par exemple.
Donc,
hein,
voilà, et c'est un ouvrage formidable, mais je dirais que dans le temps que nous traversons, où il y a des tensions communautaristes, il serait bien de relire Diderot pour comprendre ce qui fait que nous sommes les héritiers de la laïcité, que nous sommes dans une ligne de pensée qui doit nous permettre effectivement de bouter le Tout-Puissant en dehors de l'espace public, nous ouvrir à une connaissance intrinsèque. Et la tolérance, ce n'est pas de se placer sous le signe d'une religion, mais c'est au contraire de créer l'espace où il y a la possibilité de toutes les rencontres. Voilà. Et là, Diderot est d'un enseignement formidable et à méditer encore aujourd'hui.
Ça, comme je le disais pour commencer cette émission, cher Marc, ça va peut-être donner l'objet d'un spectacle puisque nous avons des petites idées à ce propos.
Ah, je verrais bien Diderot-Voltaire.
Hein, ça serait pas mal. Donc on va y réfléchir, on va mettre ça au point et on vous en parle dès que c'est prêt. Merci beaucoup Marc.
Avec plaisir Franck.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand vous répond à la question de Morgane. Pourquoi le coq est-il l'un des emblèmes de la France ?
Alors c'est donc Morgane qui nous demande via Facebook pourquoi le coq est un des emblèmes de la France. C'est vrai qu'après tout, on peut se poser la question lorsqu'on regarde certaines statues, certaines sculptures sur les monuments aux morts, par exemple. Puisque là, on arrive au centenaire de 14-18. Si vous regardez les monuments, vous verrez qu'il y a énormément de coqs. Dès le Moyen-Âge, ce sont les Anglais, figurez-vous. Les Anglais qui vont mettre en avant la ressemblance entre le Gallus, qui signifie gaulois, et le Gallus, exactement le même terme romain, latin, qui signifie coq. Et ça les amuse, les Anglais, bien entendu, surtout qu'ils ont tendance à dire aussi que les Français, un petit peu à la façon du coq, ont tendance à se vanter, à être un peu orgueilleux, comme ça c'est l'animal qui domine la basse-cour, en quelque sorte. Eh bien, en vérité, les rois de France ont adopté le coq, peut-être un peu par bravade, mais aussi parce que c'est l'animal local, en quelque sorte, l'animal gaulois par essence. Ils l'ont adopté relativement tôt, dès la Renaissance. Il y a une dimension biblique là-dedans aussi, puisque le coq, vous savez, c'est l'oiseau courageux, c'est l'ami de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ce coq, cette figure du coq, va émerger peu à peu sous les Valois, et puis elle sera maintenue sous les Bourbons. Et ce qui est très étonnant, c'est que, alors que chaque régime, lorsqu'il change en même temps les symboles. Vous voyez le bonnet phrygien ou les faisceaux de Lictor remplacer le double L ou la couronne ou les fleurs de lys, évidemment. Eh bien là, en l'occurrence, le coq survit à tous les régimes. La Révolution le garde comme symbole de l'unité nationale. Alors, il n'y a que le Premier Empire. Napoléon ne veut pas entendre parler du coq. Il dit, je le cite, « Le coq n'a point de force. Il ne saurait être l'image d'un empire tel que la France. » Alors là, on va adopter, évidemment, l'aigle. Ça dure pas longtemps l'aigle, puisqu'on retombe, si je puis dire, très vite dans le coq. Et alors, le régime qui va faire du coq le grand emblème français, et on se souvient des pages magnifiques de Balzac à ce sujet, c'est évidemment le régime de la monarchie de Juillet. Après les Trois Glorieuses, lorsque le duc d'Orléans devient le roi des Français, le roi citoyen Louis-Philippe, eh bien, lui va installer des coqs, si je puis dire, partout. C'est le moment où l'on voit les coqs fleurir aux façades de nos mairies, notamment. Mais le sceau de la Deuxième République continue à représenter la liberté tenant un gouvernail marqué d'un coq. Napoléon III maintient le coq et sous la Troisième République, on continue à utiliser des coqs un peu partout, à telle enseigne même que l'une des grilles du palais de l'Élysée, vous savez, la grille qui donne à l'arrière du palais sur les jardins, s'orne d'un somptueux coq et on l'appelle aujourd'hui encore la grille du coq. Je ne vous rappellerai pas non plus l'importance symbolique du coq pour les équipes de sport. Hein. C'est en 1911 notamment que le maillot du 15 de France, qui était blanc avec deux anneaux rouge et bleu en guise de blason, c'est à ce moment-là qu'il a accueilli le coq comme le symbole même de l'équipe. Il y a bien d'autres sports et bien d'autres équipes qui par la suite en feront autant. Bonjour Elena Mornam.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, c'est opération déstress, opération cool, opération zen. Vous êtes un stressé, contactez-nous, on va vous dire comment faire les techniques naturelles pour vous débarrasser de ce stress. 3921 ou europe1.fr. Franck, allez, venez.
Eh bien, merci beaucoup, Elena. Merci à vous, Marc, de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Je rappelle qu'on peut aller déguster de très bonnes choses chez vous, à Houdan, hein, il faut
oui,
le dire.
C'est ça, oui. Chez LM.
LM, ça voilà. s'appelle, tout simplement. Et on peut vous lire aussi, hein, parmi tous les titres, qu'est-ce que je citerai, Divine Débauche.
Ah, mais Divine Débauche, ben, disons que là, ça me permet de rendre hommage, d'une certaine façon, à Diderot. Hein, c'est parce que, oui, nous sommes les fils des libertins.
Et c'est ça. Diderot, vous voyez, n'est jamais loin. Merci beaucoup et à demain, Céline.
À demain, Franck.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.